Lors des dernières rencontres des professionnels de la communication, Azure ProCom 2009 à Sofia Antipolis, Radio Éthique a eu le plaisir de s'entretenir avec Michel Clamen, directeur du Master M2 Europe à l'Institut catholique de Paris et spécialiste du lobbying. Vous êtes professeur de lobbying international. Et alors c'est étonnant parce que vous ressemblez peut-être pas à l'image qu'on se fait du lobbyiste, vous ressemblez pas à un aventurier, j'ai pas l'impression que vous ayez un côté particulièrement sulfureux comme vous le disiez vous-même. On peut redéfinir avec vous ce que vous entendez par lobbying ?
Oui, c'est vrai que le lobbying c'est parfois souvent assimilé, mais à tort à mon avis, c'est un défaut assez strictement français qu'on ressent moins au niveau international, assimilé en effet à des choses noires, à la corruption, à des choses comme ça. Alors, je ne sais pas quel profil j'ai, mais j'ai un profil de monsieur tout le monde, il me semble. Mais je crois que lorsqu'on croise un lobbyiste dans la rue qu'on ne connaît pas, on ne se rend pas compte du métier qu'il exerce. Donc, vous me demandez de redéfinir le lobbying. Eh bien, le lobbying, c'est l'activité qui consiste à être en relation avec les pouvoirs publics, à défendre auprès des pouvoirs publics des intérêts d'ordre privé ou corporatiste, en particulier au moment où les pouvoirs publics sont en train de prendre des décisions structurantes, la plus structurante de toutes étant bien entendu de rédiger et de voter la loi. Voilà, c'est ça qu'est le cœur de l'activité. Et ce qu'on peut noter, comme vous l'aviez noté dans votre question, c'est que c'est devenu effectivement un métier. On n'en est plus simplement au lobbying d'il y a, disons, 30 ou 40 ans, dans lequel on imaginait qu'il suffisait d'avoir un bon carnet d'adresses et de déjeuner avec des ministres ou avec des députés. C'est devenu maintenant un métier très technique, qui utilise en particulier les techniques de communication.
Mmh. Vous avez parlé de l'éthique, et il semble qu'il y ait depuis quelques années un code d'éthique du lobbying.
Il y en a plusieurs, ça dépend des pays, bien entendu. En France, on a été long à s'y mettre, mais c'est vrai que depuis une dizaine d'années, s'est créée une association française des conseils en lobbying, la FCL, qui a essayé de faire un peu la séparation entre le bon grain de l'ivraie, parce que comme dans tout métier, bien entendu, dans tout troupeau, il peut y avoir quelques brebis noires ou égarées, sous forme d'un premier code de déontologie. Bon, c'est un premier pas, c'était un premier pas. Un deuxième, en France, toujours, vient de se faire avec la prise de conscience de l'Assemblée nationale, donc de l'ensemble des députés, ou sous la direction de certains d'entre eux, le règlement intérieur de l'Assemblée a été modifié. Et ça, c'est récent, puisque c'est au début de l'été que c'est intervenu. L'idée est déjà qu'on reconnaît les lobbyistes, je veux dire qu'on reconnaît leur qualité, leur profession et l'apport qu'ils ont en termes d'information des parlementaires au moment où ils vont voter la loi, mais on les soumet à un certain encadrement qui est que pour entrer dans l'Assemblée, avoir un badge qui leur permette ensuite de circuler, etc., eh bien, il faut quand même avoir déjà s'être engagé à respecter un certain code qui ressemble assez bien à celui de la FCL, également dire pour qui on travaille, quels sont les intérêts qui sont défendus ou sur lesquels on vient informer. Et alors la question s'était posée de savoir qui était vraiment lobbyiste, et la réponse qui est apportée, c'est qu'au fond, peu importe le statut, ça peut être des entreprises, ça peut être des syndicats professionnels, dont c'est quand même la vocation, ça peut être des consultants agissant pour des clients, donc des avocats par exemple, ça peut être aussi des ONG, tous ces gens-là peuvent faire acte de lobbying si c'est un acte qui est fait dans le cadre de la déontologie, de la morale, et puis, disons le mot, simplement de l'honnêteté.
Donc il y a une certaine transparence aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore ce côté sulfureux dans l'esprit de monsieur tout le monde ?
Ah ben c'est un phénomène relativement français, quoique quand on en parle aussi avec les pays méditerranéens, en Italie, en Espagne, en effet, ils n'ont pas de mots spécifiquement dans leur langue, et c'est un mot qui visiblement vient de l'anglo-saxon, bien entendu, ce qui est déjà un signe, c'est-à-dire que les pays anglo-saxons, les pays du Nord sont beaucoup plus pragmatiques et ils n'ont pas cette idée de que tout ça est lié avec l'argent et que l'argent et le business, c'est sale. Alors, certains y voient une différence entre l'Europe protestante et l'Europe catholique, c'est vrai. Bon, enfin, c'est vrai, la différence est vraie et il y a peut-être un lien de cause à effet. Certains voient ça avec un lien, mais qui existe aussi avec une certaine conception de l'intérêt général. Nous parlons volontiers de l'intérêt général et nous estimons que l'État, que les fonctionnaires, les élus aussi bien sûr, doivent être au service d'un unique intérêt général. Pour un anglo-saxon, l'intérêt général, ça n'existe pas beaucoup. Il vous dira, telle affaire est un peu compliquée, il y a plusieurs parties prenantes, mettons-nous autour d'une table et discutons jusqu'à trouver une solution peut-être un peu bancale, mais qui satisfera à peu près tout le monde. Donc s'il y a un problème de démarche là, qui est assez fondamental quand même, oui.
Il y a quand même de très jolis succès, par exemple le rosé.
Le rosé, effectivement, c'est un des succès récents du lobbying français, mais européen, enfin en tout cas des viticulteurs traditionnels, et en particulier en Provence, hein, et dans le milieu de la France, puisque, comme vous le savez, la Commission européenne avait envisagé qu'on puisse fabriquer un breuvage, disons, appelons ça comme ça, en mélangeant du vin rouge et du vin blanc. Et ça faisait bien l'affaire d'un certain nombre de négociants, d'un certain nombre d'importateurs qui importent des quantités importantes, qui auraient importé plutôt, si c'était autorisé, des quantités importantes d'Australie ou d'Afrique du Sud ou d'Amérique latine. Hein. Bien entendu, les viticulteurs ont ressenti ça très mal, d'abord sur le plan gastronomique, c'est pas terrible, le mélange rouge-blanc, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Sur le plan de la... Voilà, c'est disons assez discutable sur le plan de leurs intérêts aussi, parce qu'une entrée massive comme ça aurait fait baisser les prix, bien entendu. Et aussi, une atteinte à leur image, parce que ça fait plusieurs décennies qu'ils luttent au contraire pour que le rosé, qui n'avait pas une image bien terrible, il faut dire, il y a 30 ans, hein, s'est remonté. C'est déjà, alors là, on vient leur casser la baraque, si je puis m'exprimer très librement. Voilà, ça anéantit tout un effort. Donc il y a eu tout un travail de coalition pour être nombreux à penser que, d'interrogation, d'appui par des consommateurs et des sondages d'opinion auprès des consommateurs, le calendrier qui a été bien respecté aussi, parce que ça ne sert à rien de faire des plaidoyers si on arrive après la bataille au moment où tout le monde s'est déjà décidé, et tout ça a fait que finalement la Commission européenne a retiré cette partie de son projet. Donc c'est un succès.